Lecture par tous.
C'est un dialogue.
L'émission qui vous parle des livres.
C'est une gymnastique intellectuelle extrêmement bénéfique pour le cerveau.
Des métiers du livre, des lecteurs.
Les jeunes n'ont pas perdu le goût de la lecture.
Et de leur lecture. Chères lectrices et lecteurs, bonjour. Et voici Lecture par tous. Alors, Lecture par tous, cette semaine, allez, n'ayons pas peur des mots, sera carrément anthropologique. Car en effet, ici, il y a des choses spécifiques à l'homme. Alors, quelqu'un comme nous disait que c'était l'archive qui était spécifique à l'homme. Hein. Et puis, non, moi je me dis, il y a quelque chose de très spécifique à l'homme. C'est les livres, l'édition. Vous connaissez une autre espèce animale qui publie des histoires? Non. Et puis, tout aussi spécifique, les bagages. Vous en connaissez beaucoup, vous, des espèces animales qui travaillent des bagages quand ils se déplacent dans des migrations saisonnières? Non. L'humain fait ces deux choses-là. Donc, nous allons attaquer une émission anthropologique avec un éditeur, Julien Poujol.
Bonjour.
Bonjour, Julien. Julien Poujol, c'est les éditions Yovana. On a déjà accueilli Julien à ce micro. Et puis, Hélène Honora, qui devient une habituée de notre émission. Hélène Honora, qu'on accueille d'habitude comme lectrice. Mais aujourd'hui, Hélène Honora sera là en tant qu'auteure et voyageuse.
Merci, bonjour.
Voilà, bonjour Hélène. Alors, nous allons commencer donc avec les éditions Yovana. Alors, pour présenter, rappeler un petit peu ce que sont les éditions Yovana pour les auditeurs qui auraient oublié l'émission précédente, qui a quand même quelques mois, j'aurais envie de vous demander, Julien Poujol, est-ce que vous faites votre, ou peut-être vous êtes contre cette phrase célèbre de Claude Lévi-Strauss, au début de Triste Tropique, « Je hais les voyages et les explorateurs ». Alors, je sais que vous aimez... Ce n'est pas le récit de voyage classique que vous aimez publier. Alors, vous y retrouvez dans cette phrase de Lévi-Strauss ?
Alors, oui, en partie. En partie, parce que... Alors, disons qu'évidemment, j'ai une appétence pour le voyage. J'ai moi-même voyagé de droite et de gauche. Mais lorsque j'ai créé cette maison d'édition et que je l'ai articulée autour de la thématique du voyage... J'ai voulu proposer des choses qui ne soient pas trop marquées, tout de même, autour de cette thématique uniquement. Je tourne autour du thème du voyage, mais à chaque fois, j'essaie de proposer autre chose. Malgré tout, je ne suis pas dans le récit de voyage pur et dur. Alors, Yovana, on a deux collections. On a une collection de fiction et une collection de non-fiction. Et donc, par exemple, tous les romans que l'on propose n'ont pas que le voyage comme thématique, mais... Leur objectif, c'est surtout, au final, de faire découvrir un pays, une culture ou une ville. Donc, au final, le voyage, évidemment, un intérêt tout particulier, mais il me semble que c'est une thématique également qui est en train de muter un petit peu au XXIe siècle. Donc, il y a beaucoup de choses à dire, il faut la remettre en question. Il faut se demander comment on voyage, pourquoi on voyage. Et alors, justement, avec Hélène et son ouvrage « Sois sage, mon bagage », il y aura beaucoup de choses à dire autour de cela. Donc, on va dire que j'essaie de ne pas avoir une posture béate autour du voyage. J'essaie de ne pas réifier ce thème-là comme étant quelque chose que je révère forcément. J'aime bien, au contraire, mettre en valeur notamment des héros qui ne s'héroïsent pas trop par le biais de leur récit ou de leurs histoires de voyage. Voilà.
Je me rappelle un des premiers titres que vous aviez publié qui était... Jacquier et Cyrard, hein. Vous en avez publié d'autres de lui, je crois, depuis.
Oui.
La solitude du Quetzal, c'est un voyage raté, en fait, qui nous raconte.
Oui, en quelque sorte, et c'est vrai que c'est ça qui est touchant. Alors, c'est vrai que ce livre-là, il fait un peu manifeste, entre guillemets, chez Yovana, parce qu'il nous permet, il permet en tout cas au lecteur de bien cerner ce que moi j'aimerais faire par le biais de ma maison d'édition, c'est-à-dire, évidemment, faire voyager, évidemment, faire découvrir des ailleurs, etc., mais par le biais d'écritures déjà qui sont originales, qui sont fortes, qui sont vraiment très, très littéraires. Jacques Essira a notamment toute une œuvre de poète derrière lui. Et voilà, également des tonalités, des façons d'écrire qui, on va dire, prennent des chemins de traverse par rapport à toute la mythologie des grands voyageurs. Ouais.
Voilà. Alors, bah, se lancer, je dirais, dans une maison d'édition, ça remonte à combien de temps maintenant ? C'est pas si ancien quand même.
Eh bien, le premier livre de Siam Boulal, on l'a publié en 2015, donc cela fait 5 ans.
Ça fait 5 ans, voilà. Donc, un beau voyage, j'ai envie de dire, d'éditeur aussi. On est à combien de titres publiés aujourd'hui ?
Alors, on est à 12.
12,
on est à 12, donc... un 13e arrive bientôt, voilà.
Et le 13e va arriver. Alors, bon, on avait, dans une précédente émission, moi j'avais trouvé ça assez, en même temps, original, on avait vu plus qu'on présentait l'intégralité des livres publiés,
ouais.
Ça devient un petit peu plus difficile, alors il faudrait vraiment aller très vite. bon, on va parler des dernières parutions.
Oui, voilà, donc, oui, les dernières qui sont sorties en janvier, donc un petit peu avant le confinement, bon, 6 semaines avant. Bon, ce qui n'a pas forcément aidé par rapport à la médiatisation,
à la diffusion,
malheureusement,
oui,
et la diffusion bien. Également de ces titres-là. Mais voilà, après, c'est aussi l'intérêt de la petite édition, c'est qu'on va dire qu'on ne passe pas à autre chose comme ça en quelques semaines, comme pourraient le faire d'autres gros éditeurs.
Oui, on n'est pas dans un livre pousse l'autre, avec des offices qui encombrent les tables de libraire. On n'est pas dans ce cas de figure-là.
Voilà, tout à fait. A fortiori, pour cette année 2020 un peu compliquée, évidemment... La maison d'édition fait encore un gros effort de diffusion, médiatisation et de commercialisation pour ces livres-là qui sont sortis au début de l'année. Donc on en a 3. On a Sois sage au mon bagage d'Hélène Honora qui est donc avec nous et dont on va parler plus en détail tout à l'heure. On a Comédie médicale de Philippe Vinard qui est un auteur montpelliérain qui avait déjà publié chez Yovana Les sirènes du Kampuchea. Et alors, disons qu'on est un peu dans la continuité. Dans Les sirènes du Kampuchea, pour rappeler un petit peu, il s'agissait du récit d'un humanitaire, en l'occurrence Philippe Vinard lui-même, qui a vécu au Kampuchea, qui est l'ancien nom du Cambodge, au milieu des années 80, juste après la chute du régime Khmer Rouge. Mais à un moment où le gouvernement donc, du Kampuchea était encore très, très emprunt de cette idéologie Khmer Rouge, avec notamment des gens qui s'étaient un peu recyclés, en quelque sorte, dans le gouvernement suivant, sous la domination de l'armée vietnamienne, dans un pays très, très cloisonné. Et Philippe Vinard avait réussi à collecter des récits et des portraits des récits de vie de Cambodgiens de l'époque. Et cela donne un document à la fois historiquement très intéressant, très rare, et en même temps, avec son écriture, sa verve, son écriture très, très corrosive, on a un puzzle.
Et des personnages très touchants.
Oui.
Alors, dans le nouveau, donc, Comédie médicale, puisqu'il était un humanitaire médical.
Oui.
Quelle est l'orientation du livre, la spécificité de ce livre-là ?
Oui, alors la spécificité, on se trouve cette fois-ci au Tchad, à la fin des années 80 et au début des années 90, ça se passe entre 87 et 91, et ce récit-là, ou cette collection de récits plutôt, elle est davantage axée sur le monde de l'humanitaire en lui-même, sur ses logiques, ses mécaniques en quelque sorte. Et ce qui est vraiment instructif dans cet ouvrage-là, c'est qu'on assiste, on va dire, à une mutation de l'humanitaire à un moment où ces métiers-là deviennent de plus en plus, entre guillemets, phagocytés par le monde économique et également par l'administratif. On passe d'une période où ces métiers-là étaient très héroïsés, étaient très...
Les French doctors, comme on les appelait.
Effectivement, on avait cette idée-là de mission avant tout, à quelque chose d'un peu plus structuré, peut-être trop structuré au niveau économique, administratif, etc. Et ça crée vraiment des effets concrets sur le terrain, et c'est ce que raconte... Philippe Vinard, notamment la façon dont on collabore avec les médecins du pays en question, comment on essaie de passer la main. Alors, il montre les différentes typologies également de médecins européens qui vont là-bas, les raisons pour lesquelles ils y vont, qui sont très disparates à ce moment-là, et la façon qu'ils ont de traiter le terrain, tout simplement, les thématiques sanitaires de terrain, qui sont également très, très variées. Alors encore une fois, voilà, c'est servi par une écriture à la limite du cynique qui vraiment porte la plume dans la plaie, comme dirait Albert Londres, et qui est vraiment qui est vraiment superbe.
Oui, voilà. Et puis c'est vrai que ça soulève aussi des questions. L'humanitaire pour qui et au service de qui? Oui. Enjeu économique, enjeu politique, peut-être visage caché d'un néocolonialisme qui ne dirait pas son nom. Voilà, ça peut être beaucoup de choses.
Quoi. Oui.
Donc c'est intéressant d'avoir ce regard de l'intérieur, sans grande thèse politique. C'est, ça, j'imagine avec Philippe Vinard, c'est à travers du récit très concret.
Oui, tout à fait. Et puis on a encore cette idée de présenter des portraits aussi. Hein. On est vraiment au plus près de personnages. Lui, ce qu'il aime vraiment, c'est croquer les gens, en quelque sorte. Hein. Donc il a sorti son armoire à souvenirs et ses notes. Et il a créé des personnages qui ont vraiment du corps. On n'est pas dans des théories. On n'est pas dans de l'idéologie ni des théories, mais vraiment des personnages qui vont servir un propos, effectivement, sur l'humanitaire.
Voilà, donc comédie médicale. Et puis, alors, une autre de vos sources, je dirais, c'est la littérature traduite.
Hein. Oui.
Donc, vous y étiez déjà allé en Colombie, et là, c'est on retourne en Amérique latine avec au Nicaragua, c'est cela ?
Ah, le Nicaragua, c'est pour bientôt.
C'est à venir, c'est à venir.
L'année prochaine,
alors,
on
je vais
en
trop
parler.
Vite.
Mais en 2020, c'était l'Uruguay.
C'était l'Uruguay, d'accord.
Oui, c'était l'uruguay, donc avec Luis Dos Santos. C'est un ouvrage qui m'a été proposé par le traducteur Antoine Barral, qui était Roleté. Ça a été vraiment un plaisir de porter ce projet-là, alors qu'il a très très bien marché dans son pays. Ça a été une sorte de success story très inattendue d'un primo-romancier, comme ça, qui est arrivé, entre guillemets, un peu de nulle part, parce que, bon, ben, en Uruguay comme en France, lorsqu'on vient de la province, entre guillemets, c'est un peu plus difficile. Et en l'occurrence, cet auteur-là, il vient du nord de l'Uruguay, de la campagne, en tout cas de la frontière entre l'Uruguay et le Brésil. Il était inconnu à Montevideo. Et voilà, ça a été un grand succès, déjà traduit en plusieurs langues avant nous, si je ne dis pas de bêtises, en italien et en anglais, je crois. Et donc, on a été... Et en brésilien, maintenant, donc portugais du Brésil. Et donc, cet ouvrage-là, moi, il m'a beaucoup ému parce que tout de suite, j'ai pensé à... Ça a été une sorte de Madeleine de Proust parce que j'ai pensé à un souvenir de collégien et qui était ma lecture de Mon bel oranger de Mauro de Vasconcelos. Parce que dans ce petit livre-là, qui s'appelle donc L'enfant du fleuve, eh bien, évidemment, on parle d'un enfant et l'écrivain, vraiment, se met à hauteur d'enfant. C'est l'histoire d'un gamin de 8 ans dont les parents sont pas très présents pour son développement. Et lui, il se débrouille au quotidien, il fait les 400 coups, il n'arrive pas vraiment à trouver son équilibre. Et il y a quelque chose de très émouvant, on le sent perdu. Et au fur et à mesure de ses pérégrinations, des obstacles qui vont s'amonceler devant lui, et ben, malgré tout, il va se construire, il va créer des amitiés un peu baroques, notamment avec un ermite qui va lui apprendre à se débrouiller, à chasser, à pêcher. C'est un petit roman initiatique, moi, que je mettrais entre les mains de collégiens, de lycéens, dès 14 ans. Ça se lit vite, c'est 120 pages et c'est un vrai petit plaisir. Hein.
Enfin, c'est super. Voilà. Alors pour les auditeurs qui ne situeraient pas exactement, parce que des fois la géographie de l'Amérique latine, on est un petit peu perdu. Hein, Uruguay, un petit pays relativement petit, enclavé au sud du Brésil, hein, sur la côte du comment il s'appelle, du Rio de Para, avec Montevideo, la capitale, qui fait face...
À Buenos Aires,
hein, voilà. Oui. Et puis, pays de culture française aussi, je sais qu'Antoine Barral aime à souligner et à rappeler que deux écrivains importants français viennent de là-bas, Isidore Ducasse, plus connu comme comte de Lautréamont, et puis Jules Supervielle.
Ah oui. Et c'est vrai que l'Uruguay, c'est le pays, entre guillemets, le plus littéraire d'Amérique du Sud, en plus. Hein, Antoine Barral.
Rapporté à
souvent.
La population, voilà.
En effet, oui, tout à fait.
Bien, donc L'enfant du fleuve, et puis peut-être on a deux mots sur le prochain à sortir. Alors là, on a le titre original, de Gioconda Belli, El País de las Mujeres, hein, donc le pays des femmes.
Oui, alors là, c'est une grande avant-première chez Divergence, c'est la première fois que je divulgue ce projet dans les médias.
Ah, mais le livre est sur la table, donc je pense qu'on a autorisation d'en parler.
En effet, tout à fait, je suis très content de commencer à en parler. Malheureusement, le contexte actuel fait qu'on ne sait pas exactement quand est-ce qu'on va le sortir encore, mais ce sera 2021 à coup sûr. Gioconda Belli, c'est une grande poétesse très connue à l'international, pas encore énormément en France, malheureusement, j'espère que ça va changer. Et El País de las Mujeres, ça fait partie de son corpus de romans. Donc on pourrait le traduire par Le Pays des Femmes, mais je pense que chez nous, ce sera plutôt La République des Femmes. Et c'est l'histoire d'une utopie politique dans laquelle un parti de femmes prend le pouvoir en Amérique centrale, dans un pays extrêmement, machiste, extrêmement empreint de paternalisme également. Et donc, c'est l'histoire d'une utopie politique. Et il y a également de l'humour, beaucoup d'humour, parce que ces femmes-là vont réussir à accéder au pouvoir grâce à l'éruption d'un volcan qui va faire baisser le taux de testostérone dans tout le pays. Voilà, donc à partir de là, l'auteur va nous raconter l'accession des femmes au pouvoir, les obstacles qu'elles vont devoir traverser, et quelles seront leurs premières mesures. Est-ce qu'elles vont être amenées à écarter complètement les hommes pour faire place nette? Qu'est-ce qu'elles vont pouvoir apporter au pays? Il y a cette idée-là que les femmes vont pouvoir apporter de la douceur, un peu plus d'équilibre. Et ces femmes-là, en fait, elles vont jouer sur tous les codes de la féminité qui sont souvent péjoratifs pour en faire des atouts. Voilà. Et donc, c'est une œuvre qui, à mon avis, a un écho dans le monde d'aujourd'hui.
Alors, pour faire la transition, juste vous poser une question très courte. Mm-hmm. Si vous partiez en voyage, quelle c'est la première chose que vous mettriez dans votre bagage?
Ah, si je partais en voyage, alors moi je suis malgré tout très, très numérique et très moderne, malgré mon minimalisme, le minimalisme que connaît Hélène chez moi. Et franchement, mon téléphone, je pense. Hein. Mon téléphone.
Le smartphone.
Le smartphone. <oui. rire>
Qui est un condensé extraordinaire
et oui,
pour les
ça
bagages,
fait l'entorche, hein, etc.
Économiser de la place dans les valises, ô combien. Alors, Hélène Honora, sois sage, ô mon bagage. Alors, c'est une histoire de valise, une histoire de mal, de bagage. Comment vous est venue cette idée de sois sage, ô mon bagage?
C'est d'abord « Sois sage, ô mon bagage », c'est d'abord un clin d'œil à Baudelaire, « Sois sage, ô ma douleur, et tiens-toi plus tranquille ». Bon, la douleur de Baudelaire, elle est abstraite. Le bagage, c'est tout ce qu'il y a de plus concret, mais ça signifie tellement d'autres choses. Et comme tu le disais, ça transporte un peu de nous. Il n'y a pas d'animaux qui partent, effectivement, ni avec leur garde-robe, ni avec leur bibliothèque, ni même avec un objet souvenir, un objet précieux, comme quand il y a une catastrophe et qu'on se dit « il faut que j'attrape telle ou telle chose ».
Oui, et pas même un gris-gris pour se protéger les aléas du voyage.
L'emporter avec soi. Donc l'idée m'est venue, parce que j'ai quand même moi-même un petit peu voyagé, en Afrique du Nord quand j'étais gamine, ensuite aux Antilles quand j'étais, engagée dans une carrière, en Asie, Sri Lanka, l'Indonésie, 6 ans, la Malaisie, l'Amérique centrale, les 6 pays d'Amérique centrale. Donc je voyais les gens autour de moi, je voyais d'abord mon propre cas, parce que moi je ne suis pas du tout minimaliste comme mon éditeur, et faire mes bagages c'est toujours un calvaire, j'aime voyager mais je n'aime pas faire mes bagages, et puis je voyais mes collègues, mes amis, et des choses tellement bizarres. J'ai eu un collègue qui voyageait avec une chaise Henri II, les autres étaient restés en France.
Avec une chaise Henri II. Quel curieux bagage, on pourrait se dire. Alors, je finissais de lire ça ce matin, je lisais les dernières pages ce matin encore. Alors, il y a un travail de documentation titanesque, j'ai l'impression, derrière, de lecture, de consultation, d'enquête même, à certains moments, sur ces histoires du bagage. Alors, du bagage minimaliste au bagage maximaliste, du bagage contemporain au bagage très très ancien.
Oui.
Jusqu'au bagage du dernier voyage, jusqu'au dernier bagage.
Bien sûr. Hein? Les Romains partaient avec leurs petites statuettes des dieux qu'ils révéraient. Les voyageurs contemporains partent effectivement avec leur smartphone et leur gris-gris et leur porte-bonheur. Et pour le dernier voyage, on ne saurait se passer des impedimenta, que ce soit en Mésopotamie, en Chine, en Égypte, on a toujours envoyé les gens dans l'au-delà avec tout ce dont ils avaient besoin. Les armes, les bijoux, les talismans, les vêtements, la nourriture, etc.
Alors, ça fourmille d'anecdotes, on ne saurait pas laquelle raconter à l'antenne pour donner envie au lecteur, tellement il y en a, les plus extraordinaires, les plus, et des très banales, mais aussi des vraiment extraordinaires. Les pertes de bagages, ça c'est...
Il y en a... Un million par an en France à peu près, et 25 millions dans le monde. Mais bientôt, tout le monde sera pucé, et la valise aussi.
Voilà, mais là, je me rappelle, quand tu dis ça, c'est, moi je me rappelle de quelqu'un qui travaille à Roissy, à l'aéroport, et qui se plaît, c'est à l'époque où il y en avait les boat people qui arrivaient, les mongs. Il y avait une quantité de bagages jamais récupérés. C'était extraordinaire, quoi. Et puis bon, c'est aussi les bagages de l'exil.
Oui.
Plus dramatique.
Plus restreint par la force des choses.
Y compris les bagages d'Auschwitz. Hein, ces bagages qui ont été... Les gens sont partis avec... pas avec armes, mais avec bagages en tout cas. Avec quelque chose qui nous apparaît d'un dérisoire aujourd'hui. Particulièrement dramatique. Alors, peut-être des histoires comme ça de bagages, une ou deux histoires de bagages qui vous ont plus particulièrement marqué, dont on pourrait titiller le lecteur, lui dire mais il y en a des choses dans les bagages.
Alors, il y a les bagages effectivement pléthoriques. Une championne, c'était la reine Victoria, hein, qui se promenait entre chez elle et la Côte d'Azur avec des malles pleines de ses portraits, de petits objets à son effigie, de bottines. Et puis, elle avait tout son meuble, comme on dit le meuble d'été, le meuble d'hiver. Elle emportait son lit, son âne qui était français, qu'elle avait acheté en France, mais qui chaque fois faisait le voyage dans les deux sens. Et elle avait surtout, une fois qu'elle a été veuve, quand elle allait sur la Riviera, elle partait avec son lit, comme ses trois lits royaux et impériaux, portaient, incrustés à la tête du lit, l'effigie du prince Albert qui était mort sur son lit de mort. Elle avait sur sa table de chevet le moulage de la main du prince Albert, et elle avait à son chevet, donc sur un chevalet, un tableau qui le représentait. Elle dormait avec sa robe de chambre en guise de couvre-pied. Donc on peut vraiment considérer que le prince Albert, il faisait partie du voyage. Et puis Sissi, impératrice, Élisabeth d'Autriche, bien que se moquant de tout ce cirque, elle voyageait elle-même avec, dans les cales du bateau, tous les petits objets qu'elle achetait à droite et à gauche, et une suite, ses dames d'honneur, etc.
Ben, moi, c'est ce que j'ai bien aimé, ce que vous racontez là, c'est des choses dont on n'a pas idée, on ne se le représente pas. Et notamment, on parle de fuite, de voyages royaux. J'allais parler d'une fuite que vous évoquez à un moment donné. C'est la fameuse fuite à Varennes, hein, de Louis XVI et Marie-Antoinette. Alors, on a des peintures qui représentent ça. On a un roi déguisé en bourgeois juste dans une petite diligence. Non, pas du tout. C'était pas du tout ça. Apparemment, ils ont été repérés parce que c'était pas juste une petite diligence. C'était tout un équipage qui essayait de déménager.
Oui, il y a eu toutes sortes
d'indices. C'était plus un déménagement qu'une fuite.
Il y a eu toutes sortes d'indices, et finalement, Marie-Antoinette n'a pas pu emporter ce à quoi elle tenait beaucoup, c'est-à-dire un énorme nécessaire qu'elle avait fait faire avec un service en argent, une bassinoire démontable pour chauffer son lit, un petit réchaud. Et c'était un meuble magnifique, cerclé de cuivre, en bois précieux. Et ça s'est su qu'elle faisait préparer ça. Et donc, Madame Campan, quand elle a écrit ses mémoires, sa dame d'honneur, sa première dame, quand elle a écrit ses mémoires, elle a dit qu'elle avait essayé de dissuader Marie-Antoinette de faire ce nécessaire. Et elle n'a pas réussi à la dissuader. Et bien sûr, il y a eu des fuites.
Voilà. Alors, voilà, vous trouverez plein d'histoires de bagages. Alors, comme ça, en lisant, je me suis dit, tiens, moi, ça me rappelle une histoire de bagages que j'ai vécue. Et je n'ai pas trouvé d'histoire similaire à ça. C'est les erreurs de bagages. C'est-à-dire, au moment où on peut se retrouver avec un bagage qui n'est pas le sien, parce que c'est la valise ou le sac, c'est exactement le même modèle. Ça m'a rappelé une histoire que j'ai eue comme ça, en tant qu'étudiant dans un voyage d'études en bus. J'avais un sac, puis quelqu'un d'autre, une autre étudiante avait exactement le même sac. Et puis, on arrivait d'Espagne, et puis moi, je m'étais bon contact avec une autre étudiante, et puis, on avait prévu d'aller chez moi le soir, voilà, à l'issue du voyage. Donc, je n'ai pas besoin de donner d'explications. Donc, on était tout contents, et puis... le bus s'arrête à plusieurs endroits, enfin le car plutôt, et puis moi je vais chercher mon bagage, sauf que c'était pas le mien, parce que le mien avait déjà été embarqué par erreur.
Bien sûr.
Et il y avait la clé de mon appartement dedans. Donc oui. Voilà, ça a été une catastrophe à cause d'une erreur de sac.
J'y fais référence quand même, parce que je raconte que j'ai conseillé à ma fille aînée d'acheter un bagage de couleur voyante pour qu'il risque moins.
Oui, mais ça n'a pas marché.
Voilà, qu'il risque moins d'être confondu avec un autre ou d'être volé, parce que les permutations sont quelquefois volontaires.
Oui, oui,
et
oui.
Elle a acheté une magnifique valise vert pomme pour partir au Brésil. Elles ont visité le Brésil séparément, la valise et elle.
Oui.
Dès l'arrivée, la valise était perdue. Donc, je conclus que les parents ont toujours tort dans leurs conseils.
Tous les voyageurs ont des anecdotes comme ça. Mon épouse me racontait, en revenant d'Inde et du Népal, son sac à dos s'est perdu. Elle l'a récupéré un an plus tard. Il avait fait le tour du monde. Tous les aéroports du monde. Comment, pourquoi, mystère.
En rentrant d'Amérique latine.
Le sac a fait un beaucoup plus long voyage qu'elle.
Voilà, moi j'ai reçu, enfin mon compagnon a reçu un voyage égaré dans lequel il y avait un pot de foie gras qui était destiné à être un cadeau, qu'il n'avait pas pu faire, donc, et le foie gras était liquéfié. Il m'a dit, oh là là, on va pas manger ça. J'ai dit, attends, je l'ai mis au frigo, le lendemain, j'en ai mangé au petit déjeuner en tartine.
Le foie gras résiste bien au vieillissement et aux aléas des voyages, ayez-le en tête, puisqu'on nous interdit de prendre des liquides dans les avions. Foie gras, ça c'est pas interdit, ça va. Donc voilà, sois sage mon bagage. Eleonora avec un petit sous-titre sympathique. Eleonora s'immisce dans le baluchon des Globetrotters. Un terme qui a un peu disparu, Globetrotters. Et puis on a des noms, Blaise Cendrars, Phileas Fogg, Sissi, la reine Victoria qu'on a évoquée, mais Sarah Bernhardt, Albert Londres. Il y a plusieurs fois d'Albert Londres. Robert Capa avec une valise qui n'était pas une valise, mais... qui heureusement
valise,
a été retrouvée
avec
beaucoup de photos précieuses.
70 ans après.
Voilà.
Après s'être volatilisé.
Pour terminer cette émission, j'aurais envie de poser la question que je posais à Julien. Prochain voyage, et qu'est-ce qu'il ne faudra surtout pas oublier dans le bagage? Quel est le premier objet qui va rentrer dans le bagage du prochain voyage?
Ça dépend où on va. Moi, je dirais un livre, parce que je ne lis toujours pas sur mon smartphone, ou très difficilement. Et la première chose, du moins si on va dans des endroits où il est difficile de s'en procurer, je dirais un livre. Parce que j'ai posé la question à des amis qui voyageaient avec moi en Italie. Certains ont dit un livre, certains ont dit smartphone, d'autres ont dit brosse à dents. Pour moi, ce serait un livre.
Je suis assez d'accord avec ça. Je sais que moi, il m'arrive de partir pour des petits voyages. Je ne suis pas un très grand voyageur, mais il n'y a pas un, il y a trois, quatre, cinq livres. Mais je peux avoir oublié la brosse à dents et les chaussettes, mais je n'ai pas oublié les livres.
Voilà. Moi non plus.
Ça devrait réjouir l'éditeur qui est avec
en effet,
nous.
Complètement.
Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Julien Poujol, édition Yovana. On peut aller voir le site de vous avez un site internet,
oui.
Donc vous trouverez toutes les nouveautés et puis vous pourrez guetter. Donc ça devrait s'appeler La République des femmes, c'est
voilà.
Ça. Hein
et tout est en vente à la Géosphère.
La version originale et des... les autres titres, oui.
Tous les titres Yovana.
La librairie de voyage de Montpellier a tout le catalogue Yovana
en
rayon. Voilà. Merci Hélène Honora aussi. Changer de position. Du coup, je vous voyais.
Oui,
on
j'ai
se
vu.
Tutoiera pour une autre, de nouveau pour une autre émission. Ah, je recevais l'auteur.
C'est bien quand je suis auteur, tu me dis vous. Quand je suis, quand je présente des lectures, tu me dis tu. C'est bien.
Voilà. On termine là cette émission proposée par les collecteurs, animée par Marco Sorghin, avec Adeline Flock à la technique pour aujourd'hui.
Merci.
Merci Adeline.
Merci.
Merci Adeline. Au revoir.
Lecture par tous.
C'est un dialogue.
L'émission qui vous parle des livres.
C'est une gymnastique intellectuelle extrêmement bénéfique pour le cerveau.
Des métiers du livre, des lecteurs.
Les jeunes n'ont pas perdu le goût de la lecture.
Et de leur lecture.